l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Souillac, 104.8.
Et bienvenue dans ce Présence Midi. Quel bonheur de se retrouver entre 12h et 13h pour ce petit moment où on prend le temps de parler de notre belle région. Bonjour David Torchala.
Bonjour, et de parler aussi de Lourdes, évidemment.
Ah ben vous, le lundi, vous
bah parlez... Oui, c'est mon jour. C'est jour vous qui me dites de venir tous les lundis, je suis là voilà. Pour parler du sanctuaire de Lourdes.
Et avec le sourire et la banane.
Mais je vous attendais, je suis content de vous retrouver.
Merci beaucoup David. On va parler bien sûr du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Alors, il fait beau dehors, ça sent un peu les préparatifs, la saison va... Comment... On sent qu'elle va démarrer.
Ah oui, oui, vraiment, là, les préparatifs battent leur plein, je vais vous en parler, mais c'est vrai qu'on s'affaire, hein. ça arrive, Pâques tombe très tôt cette année.
Voilà.
Et la saison des pèlerinages de Lourdes également.
Exactement. Et puis, écoutez, nous, on va parler un peu de politique juste après, puisqu'Anne-Rose Jankovic va nous faire vivre la soirée électorale pour la ville-préfecture, la ville de Tarbes, d'ici quelques instants. Et puis, on viendra aussi à Lourdes, hein, puisque l'invité de passage à Lourdes, c'est Philippe Pujot, je crois qu'il est l'artiste qui a fait les œuvres à l'intérieur de l'église et qui a été restauré. Hein, c'est
oui,
ça, David.
De la grande fresque de l'église paroissiale du Sacré-Cœur au cœur de Lourdes.
Vous savez tout.
C'est à Lourdes, tu es bien loin. Oh, puis la paroisse et le sanctuaire, vous savez, c'est la même famille.
Exactement. Allez, juste avant, écoutez, on va faire un point sur l'actualité. L'essentiel avec Kevin Mauveau de l'école journalisme de Toulouse.
À Toulouse, le maire sortant en tête mais sans majorité. Jean-Luc Moudenc arrive en tête du premier tour avec 37,5% des voix. Derrière lui, deux listes de gauche suivent de près. François Piquemal autour de 27% et François Briançon environ 25%. Une triangulaire se profile pour le second tour. Dans les grandes villes de l'ancienne région Midi-Pyrénées, les rapports de force restent très ouverts. À Montauban, Didier Lallemand arrive en tête avec 29,64% devant Arnaud Hillion et Thierry Deville. À Albi, la maire sortante Stéphanie Guiraud-Chomeil mène avec 36,13%. À Tarbes, Éric Peyrègne du Rassemblement National arrive en tête avec 23,85%, tandis qu'à Cahors, le socialiste Vivien Coste est élu dès le premier tour avec près de 59% des voix. Un paysage politique est très éclaté dans la région. La droite reste bien placée dans plusieurs villes, le RN arrive en tête à Tarbes, tandis que la gauche conserve Cahors. Dans plusieurs communes, le second tour reste très ouvert. Dans les territoires ruraux, beaucoup d'élections sont déjà jouées. Dans de nombreux villages, une seule liste était candidate, notamment dans le Gers, l'Ariège ou le Lot. Les conseillers municipaux y sont donc élus dès le premier tour. Et maintenant, place au second tour. Il y aura dimanche 22 mars le second tour. Pour se maintenir, une liste doit dépasser 10% des voix et celles au-dessus de 5% peuvent fusionner avec ce nouveau scrutin.
Merci beaucoup à Kevin Mauveau de l'école du journalisme de Toulouse qu'on retrouvera tout à l'heure à partir de 12h30 pour le journal de la mi-journée.
Radio Présence dans la Cité Mariale 96.
On le disait tout à l'heure, la cité mariale, il va naître tout de suite question avec vous, David Torchala. Je le disais, le ciel est bleu, les beaux jours sont presque de retour. Ça sent la saison qui va redémarrer.
Oui, oui, c'est vrai, vous avez raison. Et puis je vais vous dire, les urnes du sanctuaire seront pleines aussi, non pas de bulletins de vote, mais d'intentions de prière. Et donc c'est pour ça qu'on prépare tout ça avec vraiment beaucoup d'entrain, beaucoup de joie. Et puis beaucoup de rythme, parce que c'est vrai que la date de Pâques n'est jamais la même. Et donc cette fois-ci, Pâques nous surprend, parce qu'il est de tradition pour le sanctuaire d'ouvrir la saison des pèlerinages à l'occasion du dimanche des Rameaux. Alors c'est dire qu'on accueille le dimanche, mais il faut juste être prêt quelques jours avant. Et donc c'est aussi pour le sanctuaire l'occasion de retrouver tous les saisonniers qui viennent renforcer les équipes salariées, et bénévoles du sanctuaire, venir aussi aider les hospitaliers, les religieux, les religieuses, les prêtres qui se mettre au service du sanctuaire toute l'année, j'ai envie de dire, mais particulièrement pendant cette saison des pèlerinages. Alors, cette semaine se passe une drôle d'école, c'est l'école des sacristains. Pendant plusieurs jours, eh bien, ils sont en formation. Je dis une drôle d'école parce qu'elle n'existe absolument pas, cette école de sacristains. Et quand on fait des recrutements, on propose aux personnes de devenir sacristains, parfois, c'est pas toujours très clair dans l'esprit des personnes. Et puis surtout, c'est qu'il faut un vrai savoir-faire, un savoir-faire qui se transmet avec les plus anciens pour les plus jeunes, avec les prêtres, avec les religieux, les religieuses. C'est un tout, et ce qui est extrêmement important, parce que on sait que Lourdes est aussi célèbre pour la beauté de sa liturgie. Alors voilà, leur mission, c'est de préparer toutes ces grandes célébrations. Vous savez qu'on se prépare donc à faire deux processions chaque jour, la procession du Saint-Sacrement à 17h, la procession mariale au flambeau évidemment à 21h chaque soir, dire des grandes messes internationales le mercredi et le dimanche matin, et puis aussi d'accueillir ces très nombreux groupes, et puis évidemment de dire la messe chaque jour dans les trois basiliques, les 25 lieux de culte, soit sur plus de 50 hectares. Donc c'est dire qu'il faut s'organiser, il faut être là présent très tôt le matin et finir aussi très tard le soir. Donc c'est tout un esprit d'échange, de partage, et puis aussi de technicité, hein, puisque la liturgie, il faut l'apprendre, et il ne faut pas commettre de faux pas. Alors c'est pour ça que les nouveaux sont épaulés et accompagner avant d'assumer seul la préparation de ces grandes célébrations. Donc on souhaite bon courage cette semaine à tous les sacristains qui sont sur les bancs de l'école pour les plus anciens, pour réviser aussi un petit peu, hein, et puis pour les nouveaux, évidemment, apprendre, se familiariser avec ce métier. Et puis aussi, évidemment, on s'affaire dans les préparatifs. Alors c'est toujours une affiche à coller, une signalétique à revoir, etc., pour fluidifier du mieux que possible la foule des pèlerins qui va se présenter aux portes du sanctuaire dans quelques jours, même si, on le sait, hein, les portes ne sont jamais fermées, elles sont toujours ouvertes, il y a toujours un peu de monde, mais voilà, on veut absolument pas rater ce temps, hein, d'ouverture de saison. Alors, on regarde chaque détail, et puis il y aura aussi une nouveauté. Cette année, on est en train là de faire tous les panneaux, les totems, etc. Ah. C'est pour signaler le chemin de grâce avec Marie, puisque vous savez que cette année, le thème pastoral, il y a un thème, hein, chaque année pour les pèlerinages, ce sera le « Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi », hein, cette parole de l'ange à la Vierge Marie. Et face au succès l'année dernière du chemin du jubilé, avec un cheminement, hein, à l'intérieur du sanctuaire, d'étape en étape, qui est guidé par les animateurs bénévoles du sanctuaire, eh bien cette année, ce chemin sera le chemin de grâce avec Marie. Il nous amènera de la Vierge couronnée jusqu'à la statue de Bernadette au mouton. Elle est célèbre, cette petite statue avec Bernadette au mouton, au sanctuaire, sur l'esplanade des processions, évidemment à la porte Saint-Michel avec ce grand calvaire breton. On ira jusque près de la chapelle des confessions devant cette petite statue de Bernadette, voilà aussi là pour nous parler de la réponse à l'appel de Dieu, de ce que l'on peut donner chacun. Et puis évidemment, ça se terminera de l'autre côté de la grotte avec un temps de prière devant le jardin du recueillement, c'est cet espace au calme en face de la grotte de l'autre côté du Gave, avant de terminer aux chapelles de lumière. Et à la chapelle du Bon bons samaritains pour vivre le geste de l'eau. Ce geste de l'eau sera accompagné tous les jours par des animateurs, puisque vous le savez sans doute, les piscines de Lourdes sont maintenant pleinement dévolues au bain, à l'immersion totale des personnes qui s'y présentent. Donc il y a pas mal d'organisations pour se préparer à tout cela. Évidemment, il y a des travaux, alors il y a un petit peu de bruit si vous venez cette semaine, il y a quelques chantiers. Je pense notamment à ces barrières de communion qui vont être replacées sur l'esplanade du Rosaire, dans la chapelle extérieure dédiée à Sainte Bernadette. Nous avons retrouvé dans les collections du sanctuaire de très très belles barrières qui avaient été retirées à l'époque. Bon, mais ça c'était un moment de l'histoire. En tout cas, elle marque une magnifique catéchèse sur Lourdes en mosaïque. Et donc voilà, on revient petit à petit sur ce qui se faisait quelque part un petit peu avant, se mettant sur les pas des bâtisseurs du sanctuaire. Des travaux, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de manutention, mais vraiment, je pense qu'on sera prêt pour l'ouverture de la saison. Enfin, je dis ça pour nous donner du courage, en tout cas.
Et vous le dites avec le sourire, donc ça devrait bien se passer. Puis je crois que les évêques sont de retour aussi d'ici quelques
la
jours.
La semaine prochaine, évidemment, les évêques de France, merci Philippe, seront présents pour leur assemblée plénière. Cette semaine, nous accueillons les économes des diocèses, ce sont les financiers du diocèse. Il est bon aussi pour eux de se réunir pour partager sur les réalités des diocèses. Il y a des diocèses urbains, d'autres plus ruraux qui sont parfois aussi en difficulté. L'heure est à faire des économies, à la mutualisation, pouvoir s'entraider les uns les autres, même si on le sait, l'Église est organisée ainsi, hein, chaque évêque est, j'ai envie de dire, chef sur son diocèse, mais pour autant il est toujours bon dans les provinces aussi de mutualiser les moyens. Donc ils sont là pour plancher, hein, nos économes là, qu'ils travaillent dur avant de laisser la place dans l'hémicycle aux évêques pour la semaine prochaine. Là aussi un grand temps de travail, une assemblée plénière, mais j'aurai, je pense, loisir de vous en parler la semaine prochaine.
Voilà, mais écoutez, on va laisser tous ces préparatifs, le beau temps est là, donc la pluie ne devrait pas gêner, et puis effectivement on se retrouve la semaine prochaine, David, pour parler plus précisément, donc parce qu'ils viennent deux fois par an maintenant les évêques.
Ils viennent deux fois par an, il y a la session de printemps, on appelle ça la session de printemps, c'est en avril, et puis au mois de novembre.
Voilà, merci beaucoup, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, merci Philippe.
À Tarbes et Lourdes, 96.
Des favelas et qui portent à 15 ans à peine leurs enfants à bout de bras. Oh, aux femmes africaines dont rien ne gâche la joie de planter dans la terre une graine qui jamais ne poussera. Elles ont en elles comme un don qui force le respect. Sur les traces d'Indira, bien plus loin les mots vous emmènent que toutes les armes de combat.
Merci d'être ce qu'on sera jamais, et pourtant on se croit parfait. Mais c'est pas les hommes qui mènent le monde, non c'est pas les hommes qui mènent le monde. Merci d'être ce qu'on fera jamais, et de nous aimer tel qu'on est. Car c'est pas les hommes qui mènent le monde, non c'est pas les hommes qui mènent le monde.
Même l'école n'est pas pour toi. Pourtant tu demeures la gardienne de tes fils qui font la loi. Comme tellement d'autres terriennes à qui on laisse pas le choix, et dont la parole reste vaine si je peux donner ma voix. Elles font des preuves d'abandon qui forcent le respect, qui forcent le pas.
C'est pas les hommes qui mènent le monde, non c'est pas les hommes qui mènent le monde. Merci d'être ce qu'on fera jamais.
À 12h15 sur Présence.
Présence à Castelsarrasin, 93.3.
Dans quelques instants, on va faire le point sur les élections municipales. La veillée hier, les résultats sur la ville de Tarbes grâce à Anne-Rose Jankovic.
Pas le même drapeau, ni la même couleur de peau. On n'a pas le même langage, la même culture, les mêmes images. On n'a pas les mêmes racines, les mêmes idoles qui nous fascinent. Mais chacun de nous est vivant, avec la même couleur de sang. Et on a tous le même soleil, et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre, peut-on encore vraiment attendre? On n'a pas les mêmes coutumes, d'autres rites, d'autres costumes. On n'a pas les mêmes histoires, mais leur mélange on fait l'histoire. On n'a pas les mêmes parents, mais on est tous encore enfants. Et tous issus d'un métissage, devenus fous mais nés si sages. Et on a tous le même soleil, et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre, peut-on encore vraiment attendre? Car on a tous la même planète, qui nous supplie d'être moins bête. Et on a tous une main à tendre, peut-on encore vraiment attendre? Tous le même soleil, et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre, peut-on encore vraiment attendre? Car on a tous la même planète, qui nous supplie d'être moins bête. Et on a tous une main à tendre, peut-on encore vraiment attendre? Car on a tous le même soleil, et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre, peut-on encore vraiment attendre? Car on a tous le même soleil.
Vous avez sûrement reconnu le chanteur Grégoire avec ce titre Soleil sur Présence. Nous allons parler élections municipales et on prend la direction de Tarbes.
Radio Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Triangulaire, quadrangulaire ou configuration avec 5 listes, tout est possible à Tarbes pour le second tour des élections municipales. Et tout va se jouer dans les heures qui viennent, en secret avant le dépôt des listes officielles en préfecture demain 17 mars à 18h. Le score d'Éric Pérenne hier soir dans la préfecture des Hautes-Pyrénées était un peu pressenti depuis quelques mois. Ce qui résonnait davantage comme une rumeur que comme un sondage a été confirmé dans la soirée. Le candidat du Rassemblement national est arrivé en tête du premier tour des élections municipales avec 23,8% des suffrages. Il se place devant Michel Garnier, candidat d'Hiver Droite, avec 19,6% des voix. Pascal Claverie, candidat d'Hiver Centre, avec 17,5% des voix. Et Pierre Lagonel, candidat d'Hiver Centre, avec 14,7% des voix. À gauche, Kevin Gracia, candidat pour l'Union de la gauche tarbaise, a obtenu 13,1% des voix, devançant et prenant de court Hervé Charles du Parti communiste qui lui a récolté 9,5% des suffrages. Ainsi, sur les 7 candidats en lice au premier tour, 5 sont en position de postuler au second tour ayant obtenu plus de 10% des suffrages. La question qui se pose depuis hier soir et qui faisait frémir, bouillonner, vibrer les QG de campagne des intéressés dès 20h30, c'est la question des alliances, des potentielles fusions et des soutiens espérés pour ne pas dire quémandés. Pour le moment, on peut dire que tout est possible et Tarbes se trouve déjà dans une position que l'on peut qualifier d'inédite. Les questions sont nombreuses. Éric Peyrègne est-il au maximum de ses capacités avec les 23,8% des votes obtenus? Michel Garnier, qui fut le directeur de communication de la mairie, et Pascal Claverie, ancien premier adjoint de Gérard Trémège, sont-ils disposés à faire des concessions pour se retrouver? À qui Pierre Lagonel, dont le soutien sera sûrement très prisé, prêtera-t-il main forte? Et dans ce contexte, comment la gauche, désormais entraînée par Kevin Gracia, pourra-t-elle faire souffler l'esprit du nouveau front populaire? Autant de questions qui agitent le centre-ville de Tarbes, où se trouvent les bureaux de campagne. Les 5 candidats et leurs équipes cogitent en ce début de semaine et n'ont que quelques heures pour peaufiner leur nouvelle stratégie. Leur nouveau plan de campagne doit être opérationnel dès demain pour convaincre les Tarbais d'ici dimanche prochain. Côté vaincu, hier soir, c'était bien sûr Grismine à la mairie de Tarbes. Après l'annonce des résultats, François Meunier et Hervé Charles n'ont pas caché leur désappointement. Pour Hervé Charles, secrétaire départemental du Parti communiste et tête de liste de Tarbes citoyenne, écologique et solidaire, c'est clairement une page qui se tourne. Hervé Charles.
Ouais, réaction de la déception. D'abord sur le taux de participation, qui est un peu en deçà de 52%. Ça veut dire qu'on va être en dessous de la moyenne nationale. Ce qui est un peu étonnant, nous on pensait qu'il y aurait une participation un peu plus importante, vu qu'il y avait un peu plus d'enjeux cette fois-ci avec M. Trémège qui ne se représentait pas. On pensait que ça serait beaucoup plus ouvert et qu'il y aurait beaucoup plus de participation. Ensuite, déçu par notre résultat, oui, puisqu'on fait 9,5%, on s'attendait à faire un peu plus. Ensuite, quand on regarde le total gauche, en fait, on est à peu près dans le même étillage que le second tour en 2020, aux alentours de 23-24%, donc ça veut dire que la gauche ne progresse pas. Et après, il y a bien évidemment l'extrême droite qui est en tête à Tarbes, et ça nous révolte, ça nous attriste, ça nous met en colère, ça a plein de sentiments mélangés. Et qui font que nous, notre objectif, ça sera de tout faire pour que l'extrême droite ne s'installe pas à la mairie de Tarbes.
Et ça veut dire quoi, tout faire? Qu'est-ce que vous allez faire là cette semaine?
On va regarder déjà, on va essayer d'y voir clair un petit peu, parce que là c'est très flou sur le second tour. Qu'est-ce qui va se passer au second tour? Qui va se maintenir? Qui va s'allier avec qui? Là pour l'instant c'est très difficile d'y voir clair. Donc on va attendre de voir ce qui se passe et puis on prendra nos responsabilités. On s'exprimera dans la semaine, je pense, dans ce sens-là.
De son côté, François Meunier n'avait pas changé ni de couleur ni de discours. Il se présentait pour la 5e fois à Tarbes sous les couleurs de la lutte ouvrière. Pour lui, il s'agissait de défendre une ligne anticapitaliste. François Meunier.
Alors certes, nous avons un résultat modeste, mais en tout cas, il indique que de nombreux travailleurs ne sont plus prêts à se laisser faire. On n'échappera pas à la bagarre contre le capitalisme. Alors c'est ça qu'il faut préparer. Des grands progrès sociaux, c'est dû à des luttes, c'est dû à des mobilisations sociales.
En tous les cas, il y a un deuxième tour dimanche prochain à Tarbes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Tarbais ce soir?
Eh bien qu'il faut continuer à se battre.
Voilà donc pour les candidats vaincus de ce premier tour des élections municipales à Tarbes. Les élections municipales 2026 ne sont pas terminées, puisque vous l'avez compris, le premier tour désormais passé. Les candidats encore en lice doivent se réinscrire pour le second tour des élections. Ils ont, je vous le rappelle, jusqu'à mardi 18h pour le faire. Ils pourront ensuite mener campagne jusqu'à vendredi minuit, après quoi la diffusion de tracts, bulletins et autres documents électoraux sera interdite. En parallèle de cette campagne express, les premiers conseils municipaux doivent se tenir dans les communes à un tour. Ils se tiendront, ces conseils municipaux, à partir du vendredi 20 mars pour élire les maires et les adjoints.
Grand merci à Anne-Rose Jankovic pour ce reportage hier soir dans cette grande soirée électorale en ce qui concerne donc la ville-préfecture des Hautes-Pyrénées, la ville de Tarbes. Dans quelques instants, on va retrouver le journal de la mi-journée, mais pour l'instant, on va se réchauffer au feu, même si il y a du beau temps dehors.
Radio Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
On retrouve Kenji Chirac et Vianney avec ce titre « Le feu ».
J'ai pas les mots pour éponger ta peine. J'ai que mes mains pour te compter la mienne. J'ai travaillé sans compter mes semaines. J'ai pas volé la vie que je t'apporte. J'ai pas voulu qu'elle étouffe la nôtre. J'ai tout fait pour que le nous l'emporte.
Je te savais simple, mais je te voyais seul. T'étais toute éteinte, pourtant si jeune. Oh pourquoi? Dis-moi pourquoi. Alors j'ai dû ramer pour mieux te ramener. Au fond de mes yeux, j'ai allumé un feu. Oh pourquoi? Rien que pour toi.
Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne la je protège les braises.
Je te fais la promesse d'une vie de lumière. Et que tombe la neige, je protège les braises. Le feu, oh, le feu. No puedo luchar contra el viento. Yo siento, quiero que sepa mi deseo. No puedo mover las nubes, pero ser tu pelaje cuando lo quieras pedirme.
Tierra solitaria, pensativa, yo te pensé fuerte y no entendía. Un fuego ardiente, ardiente. Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne l'averse, je protège les braises.
Je te fais la promesse d'une vie de lumière. Et que tombe la neige, je protège les braises.
De moi-même, et que vienne l'averse, je protège les braises. Je te fais la promesse d'une vie de lumière, et que tombe la neige, je protège les braises. Le feu.
Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Et on retrouve le journal avec Camille Nouveau de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
Bonjour à toutes et tous. À Toulouse, le maire sortant en tête, mais loin d'être élu. Selon les estimations diffusées dimanche soir vers 21h30, Jean-Luc Moudenc arrive en tête du premier tour avec 37,5% des voix. Derrière lui, deux listes de gauche se tiennent presque à égalité. François Picmal autour de 27%, quand François Briançon était à environ 25%. Une triangulaire se profile donc pour le second tour, sauf fusion de la gauche qui pourrait rebattre les cartes dans la quatrième ville de France. Dans les grandes villes de l'ancienne région Midi-Pyrénées, plusieurs scrutins restent très ouverts. dans le Tarn-et-Garonne, à Montauban, Didier Lallement, candidat de la majorité sortante, arrive en tête avec 29,64% des voix. Il devance Arnaud Hillon pour l'Union de la gauche à 21,9% et Thierry Deville pour les Républicains à 17,97%. À Albi, la maire sortante Stéphanie Guiraud, Chaumeil, arrive en tête avec 36,13% des voix. Elle devance Nathalie Ferrand-Lefranc à 18,13%, Frédéric Cabrolier du RN à 17,34% et Jean-Luc Suarez à 14,56%, suivi de Marie-Louise Hatt à 13,84%. À Tarbes, Éric Peyraigne du RN arrive en tête avec 23,85% des suffrages. Il devance Michel Garnier à 19,35%, Pascal Claverie à 17,60%, puis Pierre Lanonel à 14,73%. L'Union de la gauche menée par Kevin Gracia obtient 13,21%. Ici, plusieurs listes dépassent les 10%, ce qui laisse envisager une quadrangulaire au second tour. Enfin, à Cahors, le socialiste Vivien Coste est élu maire dès le premier tour, avec 58,99% des voix, loin devant Guylaine Jacquureau, à 23,48%, et Elsa Bougard, à 17,53%. Précisons que les chiffres énoncés sont sortis hier soir. Ainsi, force est de constater qu'à l'échelle de l'ancienne région Midi-Pyrénées, les résultats du premier tour montrent une situation politique très éclatée. La droite et le centre restent bien placés dans plusieurs villes, notamment à Montauban ou Albi, tandis que le Rassemblement national arrive en tête à Tarbes. A l'inverse, la gauche conserve un bastion à Cahors avec l'élection dès le premier tour du socialiste Vivien Coste. Dans plusieurs villes, les écarts restent serrés et les configurations ouvertes, ce qui laisse présager alliances et fusions de listes avant le second tour dimanche prochain. Allons maintenant faire un tour dans les territoires ruraux, où beaucoup d'élections sont déjà jouées. En France, près de 35 000 communes participent au scrutin municipal et une grande partie sont des villages. Dans de nombreuses communes rurales, une seule liste était candidate, ce qui signifie que les conseillers municipaux seront élus dès le premier jour. Ce phénomène est particulièrement visible dans les départements ruraux comme le Gers, l'Ariège ou le Lot, où il devient parfois difficile de trouver des candidats pour constituer plusieurs listes. Prochaine et dernière étape, le second tour. Il aura lieu dimanche 22 mars dans les communes où aucune liste n'a obtenu la majorité absolue. Pour se maintenir, une liste doit avoir obtenu au moins 10% des suffrages, tandis que celles ayant obtenu plus de 5% peuvent fusionner avec une autre liste. Une semaine de négociations politiques s'ouvre donc dans toute la région, avant ce second tour décisif.
Allez, un grand merci à Kevin Mouveau de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Et le retour de l'actualité, vous le savez, ce sera 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Restez avec nous puisque tout de suite on retrouve le magazine De Passage à Lourdes avec comme invité aujourd'hui Philippe Pujot.
Présence De Passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. S'il est un lieu qu'il faut absolument redécouvrir à Lourdes, c'est l'église du Sacré-Cœur. Église du Sacré-Cœur qui a été entièrement réhabilitée, remise à neuf. Et on la découvre sous un jour nouveau, notamment grâce à l'art. Nous avons aujourd'hui comme invité Philippe Pujot. Bonjour Philippe Pujot.
Bonjour.
Vous êtes artiste peintre. J'oserais dire que vous êtes pétri de philosophie, parce que quand on a fait un master de philo, forcément on s'intéresse à la question et à toutes ces questions qui traversent nos vies. Et on va voir combien l'art, tel que vous le déployez dans votre vie, et la philosophie, tout ça est très lié. On vous doit un chemin de croix qui maintenant permet à tous les pèlerins, tous les paroissiens, de méditer le chemin de croix dans cette église du Sacré-Cœur. Et puis un polyptyque qui habite le cœur de ce Sacré-Cœur. Et justement, ce polyptyque est totalement dévolu à comprendre et entrer dans ce qu'est la dévotion du Sacré-Cœur. Merci beaucoup de venir vous livrer à nous, vous qui êtes peut-être pas ici en terrain conquis, si je puis me permettre. Vous le disiez vous-même, agnostique. Et on aimerait comprendre comment un artiste comme vous, qui avoue assez simplement, humblement, son agnosticisme, accepte d'entrer dans, finalement, la pédagogie d'une immense dévotion fondamentale qu'est le chemin de croix. Comment vous êtes entré dans cette proposition, Philippe Pujot ?
Eh bien, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être ici. Comment je suis rentré là ? Tout simplement, on est venu me chercher. Mon travail était très centré sur l'idée du spirituel, l'idée du sacré, à travers la raison, mais à travers ce qu'on pourrait appeler, ce que Lévi-Strauss appelle la pensée magique, la pensée du sacré, le respect. Il disait la pensée sauvage et non pas la pensée des sauvages. Respirer une fleur, c'est déjà penser. Cette pensée, elle m'a toujours habité dans mes réflexions philosophiques et dans ma peinture. Et donc c'est tout naturellement que je me suis penché vers les grands textes religieux qui m'intéressent au plus haut point, que je respecte, dont je respecte le sens profond, symbolique et aussi la beauté des images qui y sont développées. Je suis un agnostique, effectivement. Alors, c'est moins un aveu qu'un état de fait, hein. Il n'y a pas de... je veux dire, je suis quelqu'un qui pense que la foi a toute sa place dans la société, que vouloir l'interdire serait une mauvaise chose et qu'il faut une place pour toutes les fois, pour les non-croyants, et que de toute façon, qu'on le veuille ou non, ces histoires, ces mythes, et pour ceux qui y croient, ces croyances, nous habitent et nous constituent.
Et nous font vivre.
Absolument.
Donc vous, vous acceptez à la fois d'arriver avec ce que vous êtes, ce bagage d'artiste, de ce corpus, hein, de pensée, de réflexion, de cheminement, et puis le respect que vous devez à cette dévotion quand même pluriséculaire, enfin, et puis ancrée dans la vie du Christ. C'est juste la foi de l'Église catholique et de la foi des chrétiens qui s'exprime là.
Bien sûr, alors là il y a deux enjeux pour moi quand on passe des commandes comme celle-ci. La première, c'est de me respecter en tant qu'artiste qui vient représenter quelque chose et tout en étant sincère avec moi-même, et respecter aussi le lieu de culte qui accueille ces œuvres. Les œuvres sont là pour des gens qui ont foi et des gens qui, comme moi, viennent dans les églises parce qu'elles sont des lieux du beau dans le monde, de la géométrie sacrée, d'essayer de faire un vecteur vers le bien par le beau, comme aurait dit Platon. Et donc cet enjeu, c'est d'être également très respectueux de toutes les personnes qui vont se trouver là, regarder et d'essayer de les faire apercevoir d'une nouvelle manière ces histoires qu'on leur raconte et qu'ils viennent chercher depuis longtemps.
14 stations, puisque un chemin de croix se médite, s'accomplit par des stations. On chemine, on avance dans la vie du Christ, progressivement jusqu'à la mort et la résurrection. Vous, vous n'êtes pas parti de ce qu'on dit du chemin de croix ou de ce qu'on a fait au fil des siècles du chemin de croix, mais des textes eux-mêmes, des évangiles.
Absolument. Alors, tout d'abord, je rebondis sur ce que vous dites et qui m'intéresse beaucoup. Vous dites « on chemine dans un chemin de croix » et c'est très beau. Et ça me fait penser à des poèmes de Verlaine. Quand on lit un poème de Verlaine, c'est comme si on marchait. Si vous relisez un poème de Verlaine, vous avancez strophe par strophe, comme s'il faisait des pas dans le jardin des Tuileries, quand on sait qu'il a fini sa vie converti au catholicisme, très croyant. Je trouve que c'est une image émouvante. Effectivement, ce chemin de croix, j'ai voulu le revoir très sérieusement. Quand on me passe une commande, je repars à la source des textes. Et j'ai découvert très facilement que les chemins de croix qu'on nous propose dans la plupart des églises ne sont pas des faits que vous allez trouver dans la Bible. Ce sont des chemins de croix qu'on appelle traditionnels. Jésus qui tombe, qui se relève, etc. Ce n'est pas une chose écrite dans les évangiles canoniques. J'ai voulu donc reprendre les évangiles canoniques, j'ai fait 4 colonnes, et j'ai fait minute par minute les actes que l'on peut lire. Alors il y a des petites différences entre Luc, Marc, Jean, Matthieu, mais il y a beaucoup de points communs.
Mais rassurez-nous, ce qu'on voit dans les chemins de croix traditionnels, pour une bonne part, est quand même ancré dans l'évangile. Pas entièrement.
Alors, non. Par exemple, Jésus tombe, se relève, le visage est essuyé, c'est pas écrit. C'est pas écrit dans les évangiles. Enfin, de ce qu'il me semble
mais
bien.
Mais Jésus tombe.
Peut-être, sans doute. En tout cas, c'est une image qu'on a développée comme ça. Ce qui est sûr, c'est que Jésus à Gethsémani est dans la détresse. C'est Pierre le renie 3 fois, le baiser de Judas, tout ça c'est écrit. La rencontre avec le Sanhédrin et le Caïphe, avec Ponce Pilate, tous ces éléments y sont. Et donc, en les ordonnant petit à petit, je me suis rendu compte qu'un chemin de croix, qu'on appelle donc évangélique, puisqu'il est repris très précisément dans les évangiles, celui-là existe et il a été ratifié par Jean-Paul II en 1991. Il m'a suffi de reprendre donc ces stations-là pour pouvoir développer un chemin de croix qui me semblait très pragmatique et pourtant dans le sacré, dans la foi.
Ce que vous nous dites là, c'est que Saint Jean-Paul II lui-même, en 1991... médite un chemin de croix,
oui,
sur cette démarche que vous exposez.
Et par là même, alors je ne connais pas l'histoire exactement, je ne sais pas si c'est lui qui l'a commandé, mais c'est une manière de venir apposer ce chemin de croix, voilà, et conforme. Je viens devant pour montrer de ma présence que je l'approuve.
Vous reprendre les quatre évangiles comme ça, les retravailler, ça ne laisse pas indemne. Forcément, vous-même,
oui,
vous êtes laissé imprégner par ce qui est au cœur de la foi chrétienne.
Bien sûr, absolument. D'abord, j'ai fait un travail un peu d'historien, d'archéologue. J'ai été recherché jusqu'au tissu qui était tissé à l'époque et dans la région pour savoir ce qu'il portait. Et c'est cocasse parce que à la fin, mon chemin de croix est très évanescent. Contrairement, par exemple, au polyptyque qui, lui, est très réaliste, le chemin de croix est fait de volutes, mais il me semblait important que je connaisse la vérité de la chose. La croix de Jésus est une croix en tau, puisque les historiens disent que la croix de Jésus n'était pas latine. Elle était en forme de T majuscule, comme ça, et donc Jésus ne transporte pas la croix tout au long en croix latine, il transporte la partie horizontale qu'on appelle un patibulum. Et je trouve ça beau de réhabiliter cette idée-là. Ça s'est fait dans de nombreux chemins de croix. C'était ma manière d'aborder la chose.
Et donc, vous-même, vous avez forcément fait cet effort de penser à tous ceux qui, dorénavant, vont défiler par milliers et millions dans les années à venir dans cette église du Sacré-Cœur et vont, pour certains, découvrir la vie du Christ, pour d'autres, méditer ce à quoi ils croient. Donc, l'artiste, comment fait-il quand il est dans son atelier pour penser à tous ceux auxquels il va s'adresser ?
Eh bien, d'abord, c'est toujours de la même manière. Moi, le spectateur, c'est pas quelqu'un que j'écarte de mon processus de création. Au contraire, je pense à lui. Je veux pas faire une œuvre trop élitiste pour l'éloigner, même si je ne fais pas mon œuvre en fonction de lui. Je pense que tout le monde doit avoir accès à pour moi, une grande chose. C'est une chose que tout le monde peut comprendre dans divers degrés de lecture. Et donc, quand je vois toutes les iconographies du Christ que l'on peut trouver, même, par exemple, on trouve des Jésus très blonds, aux yeux bleus, alors qu'on nous dit qu'en Terre Sainte, à l'époque, ils avaient la peau plutôt bronzée, ils étaient plutôt bruns, etc. Mais moi, je trouve que c'est une diversité magnifique. Moi, j'ai voulu recoller à une forme de réalisme, parce qu'il me plaît, en tant qu'agnostique, de venir, au plus près de la réalité du message, pour montrer qu'il n'y a pas besoin de l'achalander de petits ornements pour montrer la beauté du message. En tant qu'agnostique, j'ai pleuré à la parabole du fils prodigue. Voilà. Quand je la lis, quand je l'écoute, à chaque fois, ça me fait quelque chose. Les images de Christ me portent et j'ai pas besoin de venir les orner. Je comprends qu'on le fasse, je comprends ce besoin-là, mais c'est pas ma manière de fonctionner. Quelque part, je mets le sacré dans un monde plus réel, plus réaliste.
Et puis, dans votre chemin de croix, au-delà de la souffrance, de la difficulté, des obstacles, il y a la joie. Vous avez accepté d'aller jusqu'au bout de la foi de la résurrection,
oui,
la résurrection.
Absolument. Pour moi, le christianisme, moins que la résurrection, c'est la religion de l'incarnation. C'est-à-dire, nous sommes matière. Et comme nous sommes matière, nous sommes faibles. Jésus, par exemple, le polyptyque avec le Sacré-Cœur, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée du Saint-Esprit qui descend, ou du Fils de Dieu, qui s'incarne dans le cœur fait de matière d'un homme, pas le cœur symbolique. Et ce cœur qu'on blesse, qu'on pique avec une dague, et qu'on tue. Et ce cœur fait que cette position de Dieu n'est plus transcendante, au-dessus, extérieure. Dieu est vraiment dans une idée intérieur au monde des hommes, au monde de la matière. Moi, je trouve que ça réhabilite, à mes yeux, l'idée de la foi pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on est moins dans une idée de magie qui, à des moments, la science peut faire fuir, parce qu'on se dit, la science peut presque tout expliquer, etc. C'est pas une bonne raison pour moi. La bonne raison, c'est que symboliquement, ce Dieu est incarnation, il est dans la matière. Et donc, j'ai voulu le traiter comme ça. D'ailleurs, au moment où j'ai créé ce chemin de croix, j'étais en passe de devenir papa. Ça me travaillait beaucoup. Ma compagne était enceinte. Et j'ai donc créé ce chemin de croix vraiment dans la matière, puisque je l'ai créé comme un accouchement. Vous allez trouver Jésus au Mont des Oliviers, à Gethsémani, dans la première station, vue de haut, perdu dans ce bleu qui caractérise le fond de tous mes tableaux, puisqu'il n'y a pas de décor. Les personnages sont directement dans le décor, dans un bleu. Et Jésus est vu de haut dans une position fœtale, exactement comme dans le ventre de sa mère. Au fur et à mesure des stations, il va souffrir les douleurs de l'enfantement. Sa mère, Marie, va souffrir de le voir torturé. Il va être torturé physiquement, abandonné par son institution religieuse, abandonné par l'administration romaine qui dirige. Ses amis vont le renier, un autre va le trahir. Et à la fin, cette mise au tombeau, c'est moins l'entrée vers la mort qu'une renaissance. Cette renaissance qui n'est pas pour moi une résurrection, là on parle de symbole, hein. C'est la mort de Jésus de Nazareth et la naissance de Jésus-Christ.
Si vous le voulez bien, Philippe Pujot, nous marquons une pause dans cette émission. Juste après, nous continuons ce dialogue avec vous, vous qui êtes l'auteur, donc l'artiste qui avait accompli ce chemin de croix dans l'église du Sacré-Cœur de Lourdes et ce polyptyque qui habite le cœur de ce Sacré-Cœur, justement. À tout de suite. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Philippe Pujot. Philippe Pujot, vous êtes sorti de votre atelier, vous en sortez souvent quand même, j'exagère un peu en disant cela, atelier situé à Bagnères-de-Bigorre, dans cette magnifique vallée du Haut-Adour qui mène à la vallée de Campan.
La plus belle vallée.
La plus belle des vallées, alors là, c'est vous qui le dites et c'est sans doute vrai pour ceux qui la connaissent et qui y sont nés. D'ailleurs, votre grand-père, je crois, était berger dans cette vallée.
Absolument, et nos troupeaux sont encore en estive dans ces vallées.
Vous êtes artiste et on vous a invité parce qu'on avait envie de comprendre comment vous avez réalisé ce chemin de croix qui, dorénavant, permet la méditation à tous ceux qui entrent dans l'église du Sacré-Cœur de Lourdes, et puis ce polyptyque dédié au Sacré-Cœur qui est dans cette église. Vous nous avez dit combien, finalement, ça vous fait vous-même bouger, hein, de faire un chemin de croix. Vous avez dû vous replonger dans les évangiles, retravailler, et vous appuyer sur l'expérience proposée par Jean-Paul de lui-même en 1991, qui fait ce qu'on appelle un chemin de croix évangélique.
Absolument.
Et vous repartez de là et vous nous proposez ce qu'on peut voir dorénavant dans cette église du Sacré-Cœur de Lourdes. Le politique dans le cœur est dédié au Sacré-Cœur. À tout le moins, c'est le minimum qu'on puisse faire pour cette église.
Absolument.
Qui s'appelle l'église du Sacré-Cœur de Lourdes. Comment avez-vous travaillé pour aller offrir là aussi la pédagogie nécessaire à ce qu'est la dévotion au Sacré-Cœur ?
Alors la première chose, moi je suis un artiste, donc je fonctionne avec ma pensée fonctionne de manière visuelle. Et j'ai voulu continuer à développer cette idée de ce bleu très présent qui, il me semble, s'il traduit dans la passion ce bleu, une forme de violence d'aujourd'hui, une violence pop. On pourra en parler, mais il incarne surtout l'esprit. Ce bleu, c'est l'esprit. C'est-à-dire, c'est un bleu irréel qu'on ne va pas trouver dans la nature, un bleu mer du Sud, un bleu Caraïbe comme ça. Et en l'opposant à la matière, c'est-à-dire à la carnation, aux couleurs que j'utilise pour peindre la carnation dans les personnages, les ocres, ces couleurs sont tirées de pigments qui sont ramassés dans les montagnes et moulus. Donc, c'est vraiment la matière terre. En opposant cette matière terre à ce bleu, j'oppose la matière et l'esprit, bien sûr, où je les mets en résonance. De la même manière, le cœur était pris des reflets des vitraux qui le surplombent. Au gré de la journée, les vitraux font tourner la lumière comme ça sur les panneaux et viennent refléter les petits carrés. Ces petits carrés qui rejoignent ma façon de représenter dans d'autres œuvres les choses que je travaille pour un peu déconstruire la réalité. Et il m'a semblé bien de venir mettre des carrés comme ça de lumière partout dans mon tableau pour qu'on confonde et que le spectateur, s'il vient l'après-midi par beau temps, qu'il se dise « Mais attends, est-ce que ces carrés sont peints sur les tableaux ou est-ce qu'ils sont le reflet des vitraux qui viennent dessus ?» Et en flouant comme ça sa perception du réel, eh bien, je balaye la frontière entre le spirituel et le matériel. Je me demande si ces carrés sont faits de lumière ou si c'est moi qui les ai peints. Et en flouant ça, j'ai l'impression d'avoir fait mon travail.
Vous avez une démarche très figurative, donc les personnages sont représentés vraiment comme des personnages bien incarnés, pour reprendre votre mot. Et vous êtes aussi allé chercher des visages de l'histoire de l'Église qui sont édifiants, magnifiques. Alors on pense bien sûr à Saint François de Sales, par exemple, mais à d'autres, hein, Saint Jean Eudes, Jeanne de Chantal, qui, avec François de Sales, hein, a beaucoup œuvré dans la continuité, justement, de la pensée de Saint François de Sales. Et vous êtes même allé, je crois, à Paray-le-Monial.
Oui, absolument. J'ai pris une année, quand la commande est arrivée, j'ai pris une année d'études. Donc, j'ai voyagé en lisant les grands textes, en lisant Sainte-Marguerite-Marie à la coque. Non seulement le livre écrit sur elle, mais aussi les pensées qu'elle a écrites pour les novices qui m'ont paru très éclairante, Saint Jean Eudes, Saint Maximilien Kolb, effectivement Saint François de Sales, et aussi
le Sacré-Cœur de Montmartre.
À Montmartre, Alexandre le Gentil, Réau de Fleury, etc. Bon, c'était des lectures passionnantes pour me faire une idée de ce qu'était le Sacré-Cœur pour les gens. Donc j'ai rencontré des sœurs à Paray-le-Monial. Je me souviens avec émotion d'une sœur un peu âgée qui a passé 30 ans dans le couvent et qui m'a parlé avec passion de Marguerite Marie. Et tout ça m'a forgé une idée de ce qu'était le Sacré-Cœur. Et vraiment, l'idée d'oratoire dans le cœur est venue me chercher, moi, qui étudie la pensée, les formes de rationalité, cette idée d'oratoire dans le cœur qui a guidé, qui a été un fil rouge dans la réalisation des panneaux du polyptyque.
Tout de même, on sent bien à vos mots que cette expérience, forcément, elle vous a fait bouger, elle vous a fait vous-même plus que découvrir, non ?
Bien sûr.
Vous réinterroger, sans doute.
Ah, bien sûr, évidemment. Moi, j'ai été baptisé, j'ai fait mes communions, ma mère est très croyante. J'ai toujours été, dans cette interrogation. Je suis un peu dans les trois mousquetaires, je suis un peu Aramis, celui qui part au combat, mais ses amis, s'ils le laissent tranquille 5 minutes, il part écrire un mémoire dans un couvent. Et donc moi, j'ai ce côté monacal et cette appétence, évidemment, pour le sacré et le spirituel. Mais je tâche de raison garder pour la représentation dans mon travail. Mais évidemment, je suis touché dans mon cœur.
Votre maman dont vous parliez à l'instant, c'est Monique Pugeot-Monfrand.
Absolument.
Qui est une artiste. Qui est une artiste admirable.
Oui.
Magnifique. Votre papa était dans l'art aussi ?
Non, pas du tout. Mon papa était douanier pour gagner sa vie et berger de cœur. C'est-à-dire qu'il quittait le travail, il enlevait vite son pantalon, il changeait de pantalon et il partait dans la montagne aider à surveiller les moutons, à faire le foin pendant l'été.
C'est ce qui a construit le petit Philippe, à 16 ans, quitte l'école,
oui.
Est en rébellion.
Absolument.
Refuse tout ce qu'on lui impose et n'est pas compris, et est en rupture. Comment oui. L'enfant de 16 ans, le jeune de 16 ans, qui est à la rupture et qui quitte tout ça, tout cet univers conventionnel, revient par l'art?
Ce qu'il faut comprendre en une minute, c'est que quand je quittais l'école et que je faisais l'école buissonnière avant de prendre la décision de quitter complètement, c'était pour aller à la bibliothèque, me renseigner sur les cathares, sur la civilisation romaine, la civilisation grecque. Et je comprenais pas d'avoir des bananes, d'avoir 3 sur 20 en histoire, simplement parce que le prof n'aimait pas que je dessine, au lieu de l'écouter les yeux fixés. Or, je lui disais, quand je vous écoute en vous regardant dans les yeux, mon esprit divague. Si je veux me concentrer sur ce que vous dites, je dois dessiner. Et là, je retiendrai votre cours par cœur.
Et donc, vous étiez détesté des profs, de certains
profs. Détesté, voilà. J'ai eu beaucoup de mal.
Vous agaciez.
Voilà, j'agaçais. Donc, j'ai arrêté l'école, j'ai arrêté la casse. Et là, j'ai rencontré des amis musiciens qui eux-mêmes faisaient des études de sciences et de philosophie. Et leur conversation m'a paru tellement stimulante que je me suis dit, je dois reprendre le chemin de l'école. Et en le faisant avec ce but-là, aller faire de la philosophie, eh bien à ce moment-là, j'ai repris l'école et là, ça a très bien marché. Devenu bon élève, les profs ont accepté à ce moment-là comme j'étais, puisque je leur disais, j'ai su trouver les mots pour leur expliquer. Et donc là, j'ai passé mon bac et j'ai intégré l'université de philosophie jusqu'à obtenir un master.
C'est un magnifique message d'espoir quand même pour ceux qui nous écoutent, qui disent bon bah où mon fils, mon petit-fils, mes proches sont en difficulté scolaire ou
oui.
En difficulté
oui.
Pour entrer dans le carcan.
Oui, il faut pas
vous
le lâcher.
Vous n'y étiez pas, vous n'y non. Arriviez pas.
Voilà, et il faut lui dire bon mais sors, mais par contre on discute, je te laisse pas faire n'importe quoi. Bon moi j'ai fait du skateboard, j'ai fait la fête comme tous les jeunes, hein, mais je l'ai fait avec ce but de reprendre, j'ai repris et j'ai découvert. Effectivement, la peinture avec un grand P, l'art avec un grand A, c'est-à-dire les préoccupations de Picasso, de Mondrian, de Matisse, de Rubens ou de Raphaël, quand j'ai eu seulement 18 ans. Et par contre, je n'ai plus pu quitter cet univers.
Et vous pouvez en vivre, Philippe Pugeot, de cet univers ?
J'essaye, j'ai une petite entreprise à côté, je fabrique des toiles pour les autres artistes. Des toiles blanches que j'expédie, j'ai une petite menuiserie et donc je fabrique des châssis. À la base, je fabriquais ces châssis pour avoir des toiles moins chères parce que ça coûte très cher. Et donc, comme ça, j'ai des clients à qui je vends des toiles.
Et donc, vous réussissez à vous partager entre la nécessité de vous exprimer librement vous-même, votre art, hein, sur ces toiles, ou bien de les envoyer, de les fabriquer pour d'autres.
Si j'avais, dans un monde idéal, j'aurais quelqu'un qui fabriquerait les toiles, et moi je ferais que peindre, évidemment, j'aimerais avoir des assistants comme Rubens à son époque.
Mais comment on vit d'art aujourd'hui on trouve les moyens d'avoir des mécènes, des commandes, des galeries?
Il faut trouver des gens qui croient en nous, il faut se battre et travailler tout le temps, voilà. Si on reste assis, personne ne viendra vous dire « vous êtes un génie, je vous prends tout ». Il faut se battre, il faut peindre, il faut s'intéresser au sujet. Et à force de discuter avec des gens, de rencontrer des gens qui vont voir que vous travaillez sérieusement, alors vous êtes pris au sérieux. Et une œuvre se vend, quelqu'un met le nez dessus et dit « ah mais c'est vraiment bien en fait, c'est intéressant, je vais lui donner une chance un peu plus grande ». Et comme ça, au fur et à mesure, on se retrouve à montrer ce qu'on peut faire.
Et chez vous, Philippe Pugeot, toute œuvre est une pensée, c'est ce qui frappe. Et d'ailleurs, c'est ce qui irrigue votre travail, votre démarche d'artiste.
Oui, absolument. Le prétexte, une œuvre, c'est une représentation. Une œuvre, c'est avant tout... Alors, le spectateur, il va dire le coup de cœur. Il va dire, moi, j'ai acheté cette œuvre parce que j'ai le coup de cœur.
Il est dans l'émotion.
Voilà. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais par contre, je pense qu'une œuvre, c'est une puissance évocatrice. Vous écoutez un morceau de Mozart, vous vous en souvenez par cœur. Vous regardez un tableau qui a une grande puissance évocatrice, il va vous frapper. Mais le sujet peut être bête comme chou à l'intérieur. ou vulgaire, et donc vous l'oublierez, ça sera gâché. Donc il faut que le sujet soit intéressant. Ça me donne le prétexte de pouvoir continuer l'étude, étudier les grands textes, la philosophie, les textes religieux.
Et vous les replacez dans vos œuvres.
Exactement, c'est le sujet de mes œuvres. En ce moment, je travaille des œuvres spirituelles et des œuvres sur Pythagore, par exemple.
Eh ben, c'est magnifique. On passera encore beaucoup de temps avec vous, Philippe Pujot. En tout cas, on invite tous ceux qui nous écoutent à se rendre à l'église du Sacré-Cœur de Lourdes. C'est une façon de découvrir ce que vous faites. Une façon, parce qu'il y en a d'autres, hein, puisque vous êtes sans doute dans des galeries, chez des collectionneurs ou autres lieux d'exposition. Vous, votre atelier est à Bagnères-de-Bigorre, mais là, le Sacré-Cœur s'est ouvert à vous pour à la fois ce polyptyque dans le cœur, qui fait la pédagogie de la dévotion du Sacré-Cœur.
Absolument.
Et puis ce chemin de croix,
oui.
14 stations.
Avec que des enfants du pays comme figure.
Radio Présence, dans le Luchonnet, 94 FM.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le pape remercie et encourage la Commission pontificale pour la protection des mineurs. Il a reçu ses membres ce matin qui